France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Et bienvenue dans Être et savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'école maternelle et aux inégalités. En effet, plusieurs ouvrages très éclairants paraissent en cette rentrée et nous invitent à penser vraiment ce qui se trame dans les premières classes.
Il faut se préparer très jeune, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain.
Tout se joue avant 6 ans, n'est-ce pas un peu ce que disait Elisabeth Borne en avril dernier ? Avant 5 ans, avant 3 ans, en fait, cette phrase « tout se joue avant », je l'entendais déjà toute petite à tel point que j'étais assez étonnée d'avoir appris tant de choses après 6 ans. Mais si tout le monde retient la formule, c'est aussi parce qu'elle concentre un précipité du stress éducatif contemporain, la précocité comme valeur, le projet de se réaliser soi-même comme boussole. Mais dépassons notre pessimisme si français, essayons de voir ce qui se joue avant 6 ans, ce qui n'est pas tout, mais quand même quelque chose. Le livre « Première classe » met au jour des réalités et des ressentis de familles d'origine sociale variées à l'endroit des enfants de 5 ans. Il y est question par exemple de la manière dont les parents envisagent leurs pratiques éducatives, le temps, l'espace, mais aussi l'enfance elle-même, un temps vu pour lui-même ou au filtre du futur qui s'y bâtirait, ses représentations modelant un certain rapport à l'école et peut-être l'école elle-même. Des enquêtes comme la nôtre permettent de penser autrement, écrit notre invitée, la sociologue Gaëlle Henri Panabière. Nous verrons également comment comprendre et agir, puisque c'est le sous-titre du livre « Les inégalités scolaires » que publie un autre invité d'aujourd'hui, Sébastien Goudeau, professeur en psychologie sociale. Dès lors, que fait et que peut l'école maternelle, l'école d'avant 6 ans donc? Comment tenir compte des inégalités entre enfants devant la demande scolaire? Faut-il repenser les attendus, le programme? En fait, il vient juste de changer, dans un sens plus ou moins scolaire. Bon, le choix c'est plus scolaire hein, de nos jours, mais le sujet est en tension, donc on va y réfléchir aussi avec une professeure des écoles, Sandra Barabino.
Donc il y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des pré-savoirs qui ne sont pas nécessairement scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc. Tenir son cahier propre, etc. Bon, il y a ça. Et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est un autre facteur, c'est à capital culturel égal. Il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Alors, ce qu'on appelle la docilité, docilité c'est le mot qui vient du latin, docilis ça veut dire qui se laisse instruire. Alors ça, le capital culturel est un élément très très important et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel.
Alors, reproduction enregistrée par l'école, augmentée par l'école, accompagnée par l'école. On se demande aussi, Gaëlle Henri Panabière, comment on éclaire d'un jour nouveau ces propos de Bourdieu. Il en a tenu bien d'autres sur la reproduction et même la distinction, parce que l'école est aussi un espace de distinction. Pierre Bourdieu, voilà, sociologue, c'est au début des années 80, on est en 2025. Pourquoi reparler de ce sujet? Et j'indique très rapidement que vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris Cité et que ce livre Première classe paraît aux presses Université Paris Cité qui s'adresse à tous et que vous l'avez co-dirigé avec Frédéric Giraud. Donc, je reviens à ma question, vous l'avez retenue?
Alors, si la question c'est alors il y a plusieurs questions.
Comment on éclaire d'un jour nouveau ces vieilles problématiques?
Alors ce sont des vieilles problématiques mais qui se maintiennent puisque le contenu du capital culturel, les dispositions, les manières de faire, de penser, etc. qui sont reconnues, qui sont rentables scolairement, elles peuvent bouger légèrement hein, depuis les héritiers, les années 60. Mais les écarts se maintiennent, voire se creusent dans certains cas, ces écarts de dotation capital culturel. Même si le contenu peut, lui, un petit peu bouger. Donc, pour l'éclairer d'un jour nouveau, on peut relancer des nouvelles enquêtes. Voilà, et notamment des enquêtes...
Et examiner des sujets oui plus précis.
Oui.
Parce que vous attardez longuement, sur la question du temps. Mm-hmm. Et c'est très intéressant. Pourquoi, par exemple, choisir cet item?
Ah bah parce que souvent, quand on parle du temps des enfants qui sont autonomes, qui arrivent bien à anticiper certains horaires, etc.
Le travail scolaire, ouais, les moments de la journée d'école.
Voilà, qui se tiennent sur la durée, à faire un certain nombre d'exercices, etc. On peut avoir tendance, dès la maternelle, de se dire que ça vient d'une différence de maturité, que les choses vont se mettre en place, ou que certains ne font pas d'efforts, etc. Et on se rend compte, en fait, en allant faire des entretiens avec les familles, etc., que c'est lié à des manières différentes de vivre le temps à la maison.
Socialiser et aussi intériorisé comme un rapport assez naturel de la part des familles. C'est ça qui est très étonnant quand on lit votre livre. C'est la manière dont les différents parents, mère et père, présentent les choses. Et parfois, même pour les gens les mieux dotés, ne se doutent pas que c'est peut-être très différent pour des familles. Donc, c'est pas juste le rapport à la lecture, c'est vraiment le rapport à la vie. Le rapport à la lecture, c'est souvent un exemple qui est donné. Sébastien Goudeau, vous êtes ancien professeur des écoles, je crois que c'est intéressant de le dire, professeur des universités en psychologie sociale à Poitiers, et vous venez de publier avec Céline Darnon, Les inégalités scolaires, comprendre et agir, chez The Book. Donc ça vient tout juste de paraître en cette rentrée 2025. Ce qui m'intéresse, donc, c'est le sous-titre, comprendre et agir. Vous vous adressez aux néo-professeurs, aux étudiants, à l'ensemble de la communauté éducative, au grand public?
Alors, merci pour l'invitation. En fait, ce livre, il s'adresse bien évidemment aux enseignants, pas qu'aux nouveaux enseignants, il s'adresse à tous les étudiants. Il s'adresse également aux parents, on a plusieurs chapitres sur eux, qui touche aussi à la question des parents, les relations parents-enseignants, la façon dont les parents justement aussi vivent l'école, perçoivent l'école, peuvent s'impliquer dans l'école. Et puis, j'ai envie de dire, d'une manière générale, à toutes les personnes qui sont intéressées par ces questions d'éducation et d'inégalité. Donc ça peut être les corps d'encadrement de l'éducation nationale, les politiques, enfin toutes les personnes intéressées par ces questions-là.
Il faut sensibiliser à la question des inégalités. On a l'impression que c'est un sujet rebattu en éducation.
Alors c'est ce qu'on me disait quand j'ai commencé ma thèse, on m'a dit mais il y a déjà 40 ou 50 ans de travaux sur la reproduction sociale, c'est quoi l'intérêt de faire une thèse là-dessus? Je pense que c'est important parce que, et notamment quand on travaille avec des enseignants, quand on forme les enseignants ont conscience en fait du déterminisme social, ils savent que l'origine sociale a un poids et ils voient que leurs élèves, n'ont pas les mêmes conditions de vie. Mais quand on a dit ça, pour autant, je pense que les former sur la question des mécanismes, des interactions, des micro-interactions qui peuvent, dans la classe, en fait, créer de l'inégalité ou renforcer de l'inégalité, parce que l'inégalité, elle est avant tout subie par l'école. Je pense que c'est important, effectivement, pour comprendre qu'est-ce qui, dans ma pratique, peut éventuellement faire la différence, en ayant bien en tête que, pour rebondir très légèrement sur la question que vous posiez avant, en maternelle, je pense que, en fait, les enseignants, ils voient arriver des élèves qui ont des conditions de vie très, très différentes et qui arrivent avec, justement, des capitaux culturels très différents et qu'ils subissent avant tout ces différences dans les conditions de vie et ils doivent composer avec, ce qui est loin d'être évident.
Et peut-être essayer d'ajuster leur pratique. On prendra un exemple très précis plus tard, parce qu'on croit parfois bien faire et ça peut être plus ou moins productif, je ne veux pas dire contre-productif, donc l'idée c'est jamais de fustiger de toute façon les enseignants ici. Sandra Barabino, vous êtes professeure des écoles en maternelle au Lila, dans l'académie de Créteil. Vous avez des grandes sections, donc c'est l'âge dont on parle, mais aussi des petites sections. Oui. Il y a beaucoup de double niveau dans les écoles primaires aujourd'hui, donc maternelles et élémentaires. Est-ce que vous lisez de la sociologie? Est-ce que ça vous intéresse d'entendre ces propos ou d'écouter des émissions, pas seulement la mienne, de lire les recensions dans la presse sur ce sujet?
Bien sûr, ça m'intéresse et ça nous ouvre aussi à d'autres possibilités. Ça nous donne des clés, des outils peut-être pour repenser notre pédagogie, notre pratique pédagogique. Voilà, donc c'est une ouverture intéressante. Après, il faut tester.
Voilà, pour voir si ça fonctionne. Dans ces pratiques, alors je dis vous, mais est-ce que vous pensez que les enseignants et les enseignantes, parce que quand on est en maternelle, on peut féminiser. Hein. Je crois que le féminin l'emporte largement, puisque c'est plus de 90% des professeurs des écoles qui sont des femmes en maternelle. Donc, vous avez l'impression que... Est-ce que ce poids, en fait, on ne le fait pas un peu porter aux professeurs elles-mêmes?
Je pense que oui, et nous n'avons pas beaucoup de temps voilà, la journée, on se focalise beaucoup sur la préparation de classe, sur comment pallier donc ces inégalités, comment diversifier pour accompagner les élèves selon leurs besoins. Donc la lecture, on en a, mais on en a peut-être pas assez. Voilà. Alors que ce serait nécessaire peut-être pour essayer de nous aider à comprendre nos difficultés, puis surtout à faire en sorte que ça s'arrange, ou trouver des pistes d'évolution, voilà, de remédiation, voilà.
Mais est-ce que vous, du fait de par exemple travailler dans le département de la Seine-Saint-Denis et dans un quartier populaire, vous êtes particulièrement sensible à ces questions, ou peut-être du fait de votre histoire, de vos relations, de vos opinions?
Oui, alors moi j'ai grandi dans le 93, j'étais dans une école ZEP, donc qui est devenue REP maintenant, avec une très belle mixité sociale, culturelle, et c'était très enrichissant, et ça se passait très bien. Voilà, on avait des familles qui n'avaient qui étaient sans emploi, d'autres qui avaient des emplois comme avocat, ou qui avaient un travail important, plus important, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'était une richesse. Donc moi, ce que je fais en classe, parce que j'ai un public très mixte, je fais en sorte de mélanger un petit peu tout ça, d'inviter les familles à venir en classe, parler de leur talent. Ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être un bricolage, cuisiner. Voilà, donc inviter toutes les familles, parce que je pense que la diversité fait la richesse aussi d'une classe, et que c'est comme ça qu'on arrive aussi à remédier, à pallier ces inégalités. Voilà, en invitant les parents.
Vous voilà. Aviez vu ce film de Bertrand Tavernier, ça commence aujourd'hui?
Oui.
Parce que il y a un papa qui vient avec son camion, oui. Et j'y pense en vous écoutant. La mixité sociale, c'est parfois un mot pour parler de quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire des écoles entièrement populaires. Est-ce que vous avez le ressenti, vous et vos collègues, hein, même si vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les enseignantes, que ça s'est tendu du point de vue de la gestion de ces différences entre enfants, qu'il y a des inégalités plus difficiles à prendre en charge? Et dites-moi si c'est pas les bons mots, si c'est pas comme ça que vous voyez les choses, sentez-vous libre.
Alors moi, en fait, je sens plutôt une pression. Une pression sur les enfants, une pression sur les enseignants. Voilà, les parents mettent peut-être la pression à leur enfant en disant, bah voilà, il faut que tu écoutes bien, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois comme un tel pour réussir.
Sa maternelle.
Alors que voilà, moi je pense qu'il faut valoriser l'erreur, dire que l'erreur est importante, que c'est comme ça qu'on se construit. Donc oui, ce n'est pas facile. On va valoriser peut-être l'effort, le progrès, dire voilà, c'est bien. Là, avant, tu n'y arrivais pas. Maintenant, tu t'es entraîné, tu t'es beaucoup entraîné. Donc bravo à toi. Donc vraiment, enlever cette pression qui peut peser vraiment lourd sur les épaules des enfants, et peut-être rassurer les familles et de dire que tout va bien se passer. Voilà.
Mais vous prenez des notes, Gaëlle Henri Panabère. Mais ce que vous notez bien dans votre livre, c'est que justement, c'est pas juste affaire de dire que c'est bien ou pas bien. C'est une perspective qu'on donne aux enfants dès la naissance, peut-être, de ce qu'ils vont avoir à effectuer comme parcours. Et pourtant, tous les parents diplômés, enfin, c'est pas forcément l'impression qu'on se donne à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui s'adressent à leurs enfants comme s'il était évident qu'ils allaient faire des études supérieures, et d'autres pas du tout.
Oui, et ça se traduit dans des pratiques quotidiennes différentes, du coup, puisque la conception, il y a différentes conceptions qu'on va retrouver dans les différents milieux sociaux, et pour certains parents, plutôt du côté des milieux populaires, l'enfance, c'est d'abord, c'est avant tout un âge à préserver d'un certain nombre de contraintes, parce que plus tard, ça va être assez pénible comme ça la vie. Tandis que du côté, je mets les deux pôles, hein, et bien sûr il y a des nuances, mais du côté des classes plus diplômées et plus riches, voilà, des classes supérieures et moyennes, l'enfance c'est avant tout un âge préparatoire à la vie d'adulte.
Mais ça veut dire que, par exemple, si je suis avec mon enfant de 3 ans, bon, j'ai pas d'enfant de 3 ans en ce moment, c'est pas prévu, mais si je suis avec mon enfant de 3 ans et qu'on se récite les jours de la semaine, c'est une pratique de bourgeoise. Non, mais c'est ce que vous écrivez un petit peu, donc expliquez-nous pourquoi.
Non, c'est simplement qu'en fait, ça paraît important pour certains parents d'avoir ce travail de préparation, et qui, pour dans certains cas, ça va se traduire par se saisir de toutes les occasions, mais y compris sans contrainte, sans contrainte vécue comme telle, de mobiliser des savoirs et de faire en sorte que son enfant soit conscient qu'il est en train d'apprendre un certain nombre de choses. On va considérer que son enfant, c'est normal qu'il soit un apprenant à temps plein, qui bénéficie en fait des différents moments pour apprendre quelque chose, alors alors que l'apprentissage, et notamment l'apprentissage scolaire, ou les différents apprentissages qui peuvent renvoyer à l'école, vont davantage être renvoyés dans d'autres familles à ce qui se fait justement à l'école. Et à la maison, on est là pour profiter du fait qu'on est ensemble, d'avoir des temps de loisirs, de rire, de passer vraiment du bon temps. Donc c'est pas, il y aura des pratiques différentes, c'est pas au sens où certains parents seraient beaucoup plus contraignants vis-à-vis de leur enfant, c'est qu'ils trouvent que c'est normal en fait de profiter de ces moments-là et de faire en sorte que, par exemple, s'il a un enfant veut regarder un DVD, ça dure déjà un certain temps et pas tout le temps, et puis que si tu veux regarder un dessin animé de plus, d'accord, mais tu vas le regarder en anglais. Voilà, mais c'est vécu.
Je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors,
il n'y a pas de jugement là-dedans.
À la fois une conception de l'enfance qui irrigue l'école en elle-même. Et ça, on peut l'historiciser. J'ouvre une petite parenthèse, parce que d'abord, j'adore ouvrir des parenthèses. C'est aussi une scolarisation de la vie qui est documentée. On a reçu l'année passée François Dubé et Marie Durubella qui ont écrit un livre là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça touche les enfants très tôt, cette scolarisation de tous les moments de l'existence. Alors, la maternelle a une histoire. Hein. Elle a commencé au 19e siècle et peut-être même un peu avant, ce sont des femmes qui ont porté la création de ce qu'on appelait des asiles, puis ensuite les premières écoles maternelles. On pense à la figure de Pauline Kergomar, on en a parlé avec Fabienne Montmasson-Michel, qui est sociologue à l'université de Poitiers. C'est une ancienne enseignante, elle est chercheuse au GRESCO, ancienne enseignante de maternelle et actuellement enseignante en formation des professeurs. Le GRESCO, c'est le groupe de recherche sociologique sur les sociétés contemporaines. Elle publie Petite histoire de la maternelle, c'est juste là, en septembre, c'est passionnant. L'ouvrage est hyper politique, donc c'est assez situé, c'est un ouvrage très critique, mais avec cette histoire de l'école maternelle, on apprend plein de choses qui expliqueraient son fonctionnement actuel. Et puis Fabienne Montmasson-Michel, vous allez l'entendre, interroge aussi la figure de l'élève.
Comment, petit à petit, on en est arrivé à l'institution d'aujourd'hui. Et une institution a évolué, mais en fait, elle efface pas le passé. Elle en garde une partie, mais pas tout. Donc, c'est important de refaire tout le parcours pour bien saisir, en fait, ce qui nous en reste. Et l'école maternelle qui a été fondée sous l'égide de Pauline Kergomar, et pas seulement de Pauline Kergomar, hein, de ses collègues aussi, en fait, elles l'ont fondée dans le cadre de l'école républicaine. Alors, au départ, elle n'était pas obligatoire. Elle n'était même pas du tout fréquentée par tous les enfants de la tranche d'âge. C'était principalement des enfants de classe populaire. Elle est devenue pratiquement l'école de tous les enfants, en tout cas sur le territoire métropolitain, à la fin du XXe siècle. Et depuis la loi de 2019, la loi Blanquer, elle est obligatoire. Mais le point commun, déjà, c'est que c'est une école. Pauline Kergomar, en fait, elle a forgé, et toujours avec l'appui de ses collègues, une conception pédagogique de comment on éduque les enfants, avec en particulier l'idée qu'il faut pas imposer aux enfants une discipline contraignante. Il faut ce qu'elle appelait une discipline libérale. Et elle était en accord avec son collègue et ami Ferdinand Buisson. L'idée, voilà, qu'il faut que les enfants ne soient pas des enfants obéissants, comme dans l'institution qui a précédé, à qui on impose du dressage. Elle disait que c'était du dressage. Il faut que, par eux-mêmes, ils adhèrent en raison à la morale de l'école, de la République, de la société, et que donc ils aient une certaine liberté de mouvement, ils aient aussi la possibilité de parler. Et puis, il faut les occuper. Elle disait la discipline de l'école maternelle. C'est une discipline par l'activité, il faut les occuper, il faut leur proposer du matériel. Et bien tout ça, c'est complètement resté, alors ça a pris des nouvelles formes, mais c'est complètement resté, ça marque fortement l'école maternelle d'aujourd'hui. L'école maternelle d'aujourd'hui, c'est une école avec une pédagogie de l'activité, avec des enfants qu'on met en activité autour d'un matériel pédagogique surabondant. Et puis, elle pensait aussi, elle a été assez pionnière là-dessus, une pédagogie du langage. Alors, elle le pensait, la pédagogie du langage, vraiment, à l'aune de ce qui se déroulait dans son propre milieu, dans les éducations familiales de son propre milieu. Elle était elle-même mère et grand-mère, donc autour de conversations cultivées. Et ça aussi, donc à l'époque, elle était vraiment très novatrice. Hein. C'est très prégnant dans l'école de maternelle d'aujourd'hui. On a toujours la conscience qu'il faut faire parler les enfants, développer leur intelligence par la pratique du langage. Cette conception de l'enfance, elle s'est développée de la petite enfance. Hein. Elle s'est développée tout au long du 19e siècle. Il y a un historien, un grand historien qui a fait un énorme travail sur cette histoire qui s'appelle Jean-Noël Luc, qui l'a expliqué. Voilà, en fait, petit à petit, dans les fractions, mais vraiment des très hautes classes de la société, on s'est mis à s'intéresser au bambin, à ce petit enfant avant l'âge de raison. Cette invention de la psychologie de l'enfance au 19e siècle, ça s'est fait en fait auprès de leurs propres enfants, dans leurs propres éducations de classe dominante. Et donc, c'est cette conception de l'enfant, d'un enfant qui avait été pensé comme naturel, alors que c'était, ça n'avait rien de naturel, c'était tout à fait culturel et social. L'enfant, en naturel, universel, a été pensé à partir de l'enfant, de leur propre milieu et de leurs propres éducations, pratiques éducatives. Alors, l'école maternelle, depuis, elle a vécu de grandes transformations. L'école maternelle, en fait, a été embarquée dans l'intégration scolaire en devenant le premier maillon d'un système scolaire unifié. Et du coup, les perspectives du coup scolaires, les perspectives éducatives, le programme, ce qu'on pensait pour les enfants, ça s'est aligné sur les scolarités longues. Donc, on peut dire qu'il y a un prolongement, mais autant à l'époque de Kergomar, ça se pensait à l'aune des éducations bourgeoises, maintenant, ça se pense plutôt à l'aune des scolarités longues.
Le livre de Fabienne Montmasson-Michel, Petite histoire de la maternelle, est publiée à La Dispute. J'ajoute, on ne peut pas être totalement complète, hein, mais qu'il y est largement question du rôle des ATSEM et qu'il n'y a pas seulement des professeurs, évidemment, pour s'occuper des élèves de maternelle, s'occuper, éduquer. Et puis, il y a le soin aussi à la maternelle, et les deux font aussi les deux. Mais c'est là où c'est peut-être assez politique comme ouvrage. La question, c'est comment on scolarise la maternelle, et je trouve extrêmement fécond de penser à la fois à cette conception de l'enfance et puis cette conception d'une scolarité plus longue, avec des attendus bien, sur le moyen long terme, dans l'idéal peut-être le plus de diplômes possible. Est-ce que vous sentez tout ce poids sur vos épaules, Sandra Barabino ?
Alors, oui et non, j'ai envie de vous dire, puisque j'ai la chance d'être vraiment passionnée par mon métier et j'ai vraiment à cœur de proposer aux élèves différentes pratiques pédagogiques comme l'école du dehors, apprendre par le mouvement, apprendre toujours en se déplaçant, apprendre en jouant.
Et puis, ce serait un peu déscolarisé ? Et est-ce qu'il y a des moments où on... Scolariser,
parce qu'on on apprend.
Être moins dans quelque chose de...
De scolaire.
Je ne sais pas quel mot utiliser de plus formellement scolaire, dans le sens qu'on ferait dans le secondaire, par exemple, avec des étapes assez établies à suivre, auxquelles se conformer, un objectif assez précis.
Alors moi, j'ai un peu du mal avec les règles. Donc, dans ma classe, je me dis, est-ce que toi, tu aimerais rester toute une journée assise, sans bouger, à travailler ? Voilà, non. Donc, on a besoin de bouger, on apprend en bougeant. Par exemple, on peut lire en marchant, on peut faire des calculs en marchant. On n'est pas obligé de rester assis pour avoir des savoirs pour apprendre. Donc, moi, je pense que la maternelle est un lieu où l'enfant a encore la possibilité de s'exprimer à travers le jeu, à travers les sorties. Donc là, je parlais de l'école du dehors, mais on apprend, on fait des maths dehors, on fait du langage dehors, surtout que dans les nouveaux programmes, on insiste beaucoup sur l'enrichissement du lexique, du vocabulaire, donc c'est très important. Et dehors, donc, l'enfant se sent mieux, et puis on suscite leur curiosité, ils interagissent beaucoup entre eux aussi. Donc voilà, c'est une autre méthode d'enseigner, mais ça porte ses fruits et puis ça fonctionne, les enfants apprennent. Et puis après, à l'enseignant aussi, en classe, il ne sort pas, ce qui est tout à fait possible. Voilà, de proposer aussi du matériel un peu différencié ou du matériel concret pour aider les élèves, aussi. On revient aux inégalités sociales, mais voilà, de proposer du matériel qui pourrait aider les enfants à entrer plus facilement dans les apprentissages. Donc, encourager la manipulation, encourager, dès la petite section, à faire des tracés dehors, sur le sol, voilà, faire tout, faire des choses qui ne sont pas, comme vous l'avez dit, formelles, je sais pas.
Pour arriver aux apprentissages mathématiques ou de l'écriture.
Voilà. et l'apprentissage de la lecture.
Et justement, j'allais venir parce que c'est un point clé. Vous pensez que la maternelle, par exemple, c'est une école où on doit apprendre à lire ?
Alors, je ne dirais pas apprendre à lire, mais vraiment commencer à apprendre les sons. Voilà, les sons. Donc, ne pas donner le nom de la lettre tout de suite, mais le son. C'est ce que j'ai dit aux parents de mes élèves lors de la réunion.
Ça ne sert à rien de réciter l'alphabet.
Non, ça ne sert à rien de réciter l'alphabet en maternelle. Quand vous allez voir le mot bus dans la rue, vous n'allez pas dire BUS. Vous allez dire bus quand vous lisez. Donc, à quoi va servir de connaître le nom des lettres? Voilà, ça va juste empêcher l'enfant d'entrer sereinement dans l'apprentissage de la lecture. Et c'est vraiment quelque chose qui marche. Donc, moi, ça fait 17 ans que j'enseigne. J'ai fait ma moitié de carrière en élémentaire et l'autre moitié en maternelle. J'ai des enfants qui ont 2 ans et 7 ans. Donc, j'ai expérimenté aussi un petit peu avec eux et j'ai beaucoup lu. Et ça marche. Donc,
comme... Oui, mais vos enfants, c'est des enfants.
Mes élèves aussi, hein, de différents milieux sociaux.
Non, mais, on sait que c'est un avantage.
Non, ce n'est pas vrai.
Les parents enseignants, si. Non, mais vos élèves, quand vous leur apprenez les sons dès la petite section, les sons des lettres, est-ce que vous pensez, ce n'est pas une impression, est-ce que vous pensez et est-ce que vous avez la preuve à travers votre pratique que ça permet de lutter contre
l'échec scolaire
et des inégalités?
Bien sûr. Bien sûr, mais je vous le dis vraiment droit dans les yeux, ça fonctionne, et dès la petite section. Quand l'enfant montre de l'intérêt pour les lettres, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on lit des histoires tous les jours, on est confronté aux lettres, donc qu'est-ce que c'est? C'est des petits signes qui donnent un bruit, une chanson, un son, donc on peut appeler le son comme on veut. On est en maternelle, on peut créer des histoires, on est toujours, voilà, on plante un décor. Et ensuite, donc, comme vous le savez, on passe par la composition de mots, on sait écrire avant de savoir lire. Donc les enfants, au fur et à mesure, enregistrent beaucoup de sons, les mémorisent, vont essayer de les écrire et de manière spontanée vont arriver à lire. Et on a commencé depuis 2 semaines et demie. J'ai des petits grands et avec mes grandes sections. Donc, on a beaucoup fait des jeux de phonologie. On a beaucoup lu, etc. Ils ont déjà mémorisé beaucoup de sons. Même des enfants qui parlent très mal français. Donc, voilà, qui sont en plein apprentissage de la langue. Et ils composent leurs premiers mots. Donc, ils encodent. Donc, ça fonctionne. C'est magique. Voilà.
Sébastien Goudot, est-ce que vous pensez, vous qui avez écrit sur les inégalités, que c'est par les pratiques pédagogique qu'on combat des inégalités dont on sait qu'elles font de grosses différences dans la réussite des élèves. On ne va pas répéter ce qu'on vient de dire et ce qu'on dit tout le temps. Est-ce que, malgré tout, dans vous nous parlez de vidéos, d'expériences que vous avez pu faire, est-ce que la manière dont pratiquent les enseignantes vous le montre?
Alors, je pense que l'action, elle est à deux niveaux. Elle est d'abord au niveau de la société, puisque en fait, ce qu'on montre dans nos études, c'est que les inégalités qui existent entre les familles, hein, les inégalités dans les conditions de vie, qui donnent lieu justement, ça a été bien discuté par les invités, à des pratiques de socialisation différentes. Eh bien, elles se répercutent dans la classe. Donc il faut tout d'abord, je pense, agir au niveau des inégalités dans la société pour faire en sorte qu'il y ait moins d'hétérogénéité sociale, de capital culturel quand les enfants arrivent dans la classe en maternelle.
C'est intéressant de le rappeler. Vous avez raison de nous le dire parce que l'école n'est pas isolée dans la société.
Ouais. Après, quand on a dit ça, bien évidemment, on sait que pour une même classe, il y a des enseignants qui vont plus ou moins corriger les inégalités. Il y a un effet maître et c'est une bonne nouvelle, hein. Quand les enseignants se lèvent le matin, je pense qu'ils se disent pas, quelles que soient mes actions dans la classe, ça n'aura aucun effet sur les apprentissages des élèves. Donc heureusement, c'est une bonne nouvelle. Il y a un effet maître qui existe, qui a été bien documenté. Et donc effectivement, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est d'essayer d'identifier certaines pratiques qui peuvent ou pas créer de l'inégalité. Alors dans ce que vous mentionnez, on a fait avec plusieurs collègues, on est nombreux, on a fait des observations vidéo en fait dans des classes pour filmer de façon très précise et effectivement la prise de parole. Nous, on s'est beaucoup intéressé à la distribution de la prise de parole dans la classe, puisque le langage est un vecteur d'apprentissage très important, et puis les moments où les enfants parlent en maternelle, Sandra pourra me corriger, représente une part non négligeable des journées. Et ce qu'on montre, pour le dire, pour pas être très long, c'est que d'une part, il y a des différences, effectivement, de par les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire que dans nos études, on montre que les élèves de milieux favorisés, ils prennent plus spontanément la parole que les autres. Ils vont couper plus la parole, ils vont la saisir plus spontanément quand il y a une question posée à la classe. classe, ils vont parler plus longtemps. On voit dans les observations vidéo, certains parlent de leur vacances à Paris, voire même aux États-Unis, etc. Donc ils ont ou de l'histoire qu'ils ont déjà lue chez eux et qu'ils connaissent. Ils savent que le loup n'est pas méchant, qu'il a peur des petits cochons. Donc ils vont pouvoir comme ça mobiliser leur capital culturel pour garder la parole et s'exprimer. Et on a effectivement aussi documenté des biais qui sont pas bien sûr conscients chez les enseignants, puisqu'on voit par exemple qu'à niveau de compétences égales, les enseignants vont davantage interroger les enfants de milieux favorisés que les enfants de milieux populaires. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est très important parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des enseignants qui sont conscients du déterminisme social, mais qui pour autant ne sont pas conscients d'avoir cette pratique-là. Et je pense que c'est là que se joue vraiment la formation.
Je l'attendais, cette phrase, Sébastien Goudeau, parce qu'elle est récente, cette étude. Et parce que ce sera un constat objectif qui est assez grave tout de même. Comment vous l'expliquez des élèves qui ont tout pour eux et qui apparemment occupent déjà pas mal l'espace, sont en plus favorisés par rapport à des petits camarades qui sont pleins de bonne volonté et pleins de capacités, qui remplissent des attendus, ce qui serait déjà au départ pas forcément la meilleure raison de les interroger, parce qu'il faudrait aussi interroger ceux qui parlent pas beaucoup. Enfin bon, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et donc, à niveau égal, à votre avis, pourquoi les enseignants, c'est une connivence de classe?
Premièrement, c'est pas intentionnel, bien évidemment. Il y a des études qui documentent que les enseignants, dans leur très très grande majorité, sont vraiment motivés par des valeurs d'égalité et sont très sensibles à cette question des inégalités. Nous, on l'explique par un phénomène de proximité culturelle, en fait. C'est-à-dire que il y a eu.
Ah, dommage, parce que c'est le moment de l'explication où ça coupe. Donc, on va passer à un petit son de Bernard Lahire et d'un enseignant qui s'appelle Mohamed. Ah non, c'est bon, vous êtes là?
Allô?
C'est bon, on vous entend, oui. De nouveau. Alors, on s'est arrêté à... Ça s'explique par, donc il faut vraiment la suite.
Ah, c'était pour faire du suspense.
Exactement.
Ça s'explique par une adéquation culturelle entre les contenus, les expériences, le capital culturel qui est mobilisé dans la classe et puis celui qui est vécu par les enfants dans leur famille. Sur les vidéos, on le voit très bien sur des lectures d'albums l'enseignant qui veut faire progresser sa séance, qui est aussi, on le rappelle, dans un temps contraint, il a un programme, il a des contenus à faire passer, il a des comportements à gérer par ailleurs, donc il doit progresser. À un moment donné, ça se comprend qu'il va s'appuyer sur des élèves dont il sait qu'ils ont les bonnes réponses ou qu'ils vont pouvoir peut-être servir de modèle aussi aux autres élèves, parce qu'il sait que certains élèves possèdent ces connaissances culturelles ou ces expériences. On le voit, par exemple, les enfants qui reviennent de vacances, et je disais qui parlent de leurs vacances à Miami, qui vont décrire les alligators qu'ils ont vus, etc. Tout le monde est très intéressé, tout le monde a les yeux qui brillent. Enfin voilà, c'est des contenus qui permettent de faire aussi une certaine ouverture au monde. Alors je prends un exemple un peu extrême, on parle pas des alligators et de Miami tous les jours dans la classe, mais c'est des expériences culturelles qui sont vraiment socialement situées et qui vont permettre effectivement d'aborder des contenus qui intéressent tout le monde, et y compris les camarades, quoi.
La question, c'est que même si on est accueilli dans la même classe, on n'arrive pas avec les mêmes, dans le même état, je dirais. On n'a pas eu la même expérience avant, et une expérience de 5-6 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça s'est fait généralement dans la famille, alors déjà un peu à l'école maternelle, mais les différences sont là dès le départ, dès l'école maternelle. Nous, on les a saisis en grande section maternelle, ils ont 5-6 ans, mais on voit déjà que ça n'est plus un jeu, cette histoire. Ils sont à l'école et l'école n'est plus un jeu.
Dans les faits, moi, ce que j'observe, c'est que souvent, pas tout le temps non plus, il ne faut pas abuser, parce qu'il y a des nuances à apporter. Hein, la réalité, elle est bien plus nuancée que ce que même les chiffres peuvent dire parfois. C'est-à-dire que certaines populations restent extrêmement, effrayées par l'école. Et c'est souvent ce qu'on retrouve dans les quartiers populaires, en fait. Il y a encore des populations qui sont immigrées et qui arrivent d'autres pays, ou en tout cas qui ont vécu dans des environnements où ils n'étaient pas acculturés, justement, à la culture scolaire. Et en fait, ils ont ce truc-là où finalement, ils ont peur de l'école pour leurs enfants. Et du coup, les enfants arrivent, ils sont justement déjà dans une posture d'élève qui n'est pas la leur, en fait. C'est-à-dire que un peu dénaturés. on retrouve pas l'enfance telle que on est censé l'avoir à 3, 4, 5 ans, voire 6 ans. Et à contrario, pour des familles qui parfois ont des enfants qui sont justement acculturés, on peut retrouver quelque chose qui est de l'ordre de la surconfiance. Des élèves qui vont être dans une espèce de presque d'insolence, parce qu'en se disant justement, je connais les codes. Et comme je connais les codes, je peux faire un peu ce que j'ai envie de faire.
En cherchant ces archives, en réécoutant Bernard Lahir, c'était à l'occasion de la parution de Enfance de classe, donc en 2019 sur France Culture. Et puis en discutant avec cet enseignant qui s'appelle Mouhamadou, Balance pour la Balance, il était venu déjà dans Être et Savance, mais ils disent la même chose. Il y a aussi cette question de la surconfiance hein, de certains enfants. Sébastien Goudot en parlait. Cette surconfiance, elle est totalement construite aussi par les parents. Gaëlle Henri Panabia, tiens, on peut dire hein, que vous vous basez sur le même matériau. En fait, vous avez participé à cette enquête hein, de classe. Hein.
J'allais vous remercier d'avoir permis de réentendre Bernard Lahir qui présentait donc Enfance de classe, puisque c'est une enquête Enfance de classe, qui est une enquête collective. 18 personnes, enfin 17.
Assez énorme, et c'était des récits Enfance de classe. Et là, c'est des thèmes.
Des études de cas.
Classe.
Voilà. Des études de cas qui ont permis vraiment de, voilà, montrer un certain nombre d'inégalités de manière très flagrante dans des, incarnés, les 18 enfants qui sont présentés dans Enfance de classe. Et là, ça nous a permis de, en remobilisant, en fait, les données des entretiens et les observations en classe, d'approfondir ensuite, d'aller voir là où il y a des pistes qui avaient été ouvertes par la première série des analyses.
Et donc la confiance en soi, qui est, on parle souvent de déficit, de confiance en soi pour les femmes, de syndrome de l'imposteur, ou de l'impostrice, qui n'existe pas, pour les unes et les autres. Ça se construit dès la prime enfance. Alors, c'est pas seulement les parents, mais les parents, ils sont pour quelque chose, ils ont un discours là-dessus, hein, sur la manière d'être au monde.
C'est ça.
Et dans la classe.
Oui, oui, oui. Et effectivement, il y a des formes d'aisance avec les autres, se valoriser soi avant les autres, ou des formes de « je vais réussir parce que je sais que je vais y arriver en persévérant ». Voilà, il y a des différentes formes d'aisance qu'on va retrouver, en fait, dans les différents milieux sociaux, inégalement valorisés. Par exemple, la persévérance, la confiance dans le fait qu'on va y arriver en insistant, ça, c'est davantage valorisé dans les milieux supérieurs.
Et ce que vous citez comme exemple, c'est par exemple des parents qui disent « oui, oui, il y arrive parce qu'il a envie ». Mais en fait, on ne sait pas si l'enfant, il a vraiment envie, c'est un discours parental.
Il est entraîné,
est proféré devant l'enfant qui comme quelque chose d'un peu performatif.
Oui, oui, oui. Elle est courageuse, elle est volontaire. Enfin, je dis elle parce qu'il y a beaucoup de filles en fait qui sont qualifiées sous ce format-là dans les milieux davantage supérieurs et moyens. Donc ça naturalise en fait, ça renforce cette qualité hein, ce type de confiance-là. Et puis il y a d'autres formes de confiance dans la compétition. On va davantage retrouver effectivement chez les garçons ou plutôt en milieu moyen et supérieur également. On peut s'imposer vis-à-vis des autres. On va retrouver des comportements du coup dans la cour qui on retrouve en fait cet entraînement à la compétition familiale, on le retrouve dans des comportements dans la cour de manière de s'imposer.
Ce qui ne signifie pas que les enfants de milieux plus populaires n'ont pas de ressources.
Pas du tout, puisqu'il y a l'autre forme de confiance qui est davantage valorisée en milieu populaire, c'est la confiance dans les autres, dans la coopération. Il y a beaucoup de familles de milieux populaires qui valorisent le fait d'être un bon camarade, de savoir être à l'écoute des autres, et ou de savoir trouver des bonnes idées de jeu.
C'est pas une vision un peu enchantée des milieux populaires et plutôt, c'est vraiment...
Désolée, hein, c'est les faits. C'est les faits hein, qui permettent de classer. Les frontières ne sont pas étanches, mais tendanciellement, c'est en milieu populaire, on va davantage retrouver des valorisations de cette forme de confiance qui est très utile scolairement.
Hein, parce que la réussite scolaire, elle est individuelle.
Ben voilà, parce que effectivement cette confiance-là, elle est utile pour faire
collectivement.
Et oui, exactement. C'est très utile d'avoir.
C'est important d'entendre l'enseignante à ce moment-là. Comment vous tressez cette relation entre une école qui finit par juger, même si c'est juste un livret d'évaluation, c'est pareil, un livret d'évaluation des compétences en maternelle, donc individuelle, et puis cet aspect collectif qui est difficile hein, aujourd'hui à valoriser, on le dit dans les milieux enseignants, à l'endroit des familles et de leur comportement.
Moi, je me sers beaucoup d'outils pédagogiques comme de la littérature de jeunesse. Donc, c'est rigolo parce que j'ai lu un livre hier qui s'appelle « As-tu rempli ton seau aujourd'hui ?» C'est le bonheur expliqué aux enfants. Voilà, donc on a tous un seau invisible. Et lorsque le seau est rempli, c'est qu'on est heureux, qu'on est joyeux. Et quand il est vide, c'est qu'on a fait une mauvaise action, qu'on a dit quelque chose de pas gentil qui peut blesser l'autre ou qu'on était trop dans la concurrence, dans la compétition. Et donc, on va apprendre tout doucement aux enfants à vivre ensemble, parce que la maternelle, c'est ça.
Comme avec le son des lettres, il faut être explicite.
Voilà, oui. Il faut des images. Il faut des images. Il faut que ça parle, parce que parfois, les mots ne sont pas compris par les enfants. Donc, il faut aussi apporter des images, des objets, voilà, pour essayer de concrétiser un peu ces valeurs-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce qu'elle ne manque pas de récits, l'école maternelle, aujourd'hui, ou l'école, l'école publique, peut-être? On parle de narratif parfois, même
il y a des albums. Il y a des albums de jeunesse, peut-être pas assez, mais en tout cas voilà, c'est important. Et je vais peut-être parler aussi de tout ce qui touche au consentement, au respect du corps, qui entre aussi beaucoup en jeu dès la maternelle.
Ah, mais ça c'est aussi dans les nouveaux programmes avec les VAR,
l'éducation à la vie affective et relationnelle.
Merci de détailler.
mot compte triple. Non, voilà, c'est très important. Et puis voilà, ça apprend le respect de l'autre, le respect du corps. Donc on essaye dès la maternelle de transmettre ces valeurs comme on peut.
Alors, je reviens quand même à la confiance en soi et même à la domination, hein, parce que ce mot, vous l'utilisez, Gaëlle-Henri Panabia. Sébastien Goudeau, vous parlez d'une certaine idéologie de l'effort. Je ne sais pas si vous utilisez le terme idéologie, mais vous parlez de méritocratie, de valeur du travail. La question que je me suis posée en vous lisant, c'est que finalement, une école qui pourrait pas dire aux élèves « il faut travailler, il faut être persévérant et méritant », elle aurait peut-être plus rien à dire. Or, ce discours en lui-même contient les germes de pas mal d'inégalités. Il me semble que c'est un peu le sens de votre propos, mais éclairez-nous.
Oui, c'est ça. En fait la croyance dans le mérite ou la croyance dans la méritocratie scolaire, comme on dit en psychologie sociale, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que bien évidemment, il faut dire aux enfants que c'est important de faire des efforts et de travailler. Je vois pas un enseignant ou un chercheur qui dirait le contraire. Simplement, parce que d'une part c'est vrai, c'est-à-dire que plus on travaille, plus on s'entraîne et plus on progresse. Mais et puis ça offre aussi des bénéfices psychologiques, c'est-à-dire que les enfants, ils ont besoin quand même de croire qu'ils vivent dans un monde juste, et cette croyance dans la méritocratie, elle permet aussi d'avoir ce sentiment qu'on contrôle les choses et que, eh bien, il y a un peu de justice quand même dans le monde. Le contraire, ce serait un peu déprimant pour des enfants. Par contre, il faut aussi avoir conscience que ça pas que des bons côtés, c'est-à-dire que effectivement, faire des efforts, ça permet de progresser, mais ça suffit pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui font des efforts, des enfants qui font des efforts, mais qui ne vont pas arriver au résultat escompté pour tout un tas de raisons qui peuvent être extérieurs à eux. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce discours, cette croyance dans l'effort, elle est intériorisée très, très tôt. Nous, on a fait des études avec des enfants de 5 ans. Justement, on leur demande d'expliquer des situations de classe où il y a des enfants qui contribuent beaucoup au moment de discussion, qui sont beaucoup interrogés. Et ils ont l'explication qu'ils donnent dès 5 ans, c'est cet enfant parle plus souvent, il a plus de choses à dire parce qu'il est plus sage, parce qu'il fait plus d'efforts, éventuellement parce qu'il est plus intelligent. Donc cette croyance, elle est présente très très tôt. Alors, il ne s'agit pas de la détruire, de la pulvériser, mais par contre de faire prendre conscience davantage, je pense, aux enfants qu'il y a...
Alors, ce qui...
Autre.
Il y a des petites coupures. Désolé, Sébastien Goudeau, mais la question qui se pose, c'est l'incapacité de l'école à accueillir les enfants tels qu'ils sont. Et on en revient aux propos de l'historienne Fabienne Montmasson-Michel, enfin sociologue, hein, plutôt en début d'émission. C'est-à-dire que au départ, on a une vision de l'enfant et, manque de bol, une majorité d'entre eux colle pas tout à fait. Et ça, on n'arrive pas trop à sortir de cette équation. Encore aujourd'hui, malgré tous ces savoirs, est-ce que ça rejoint des observations que vous avez faites en classe ?
Bah, oui, c'est un petit peu là, ça revient à, quand on renvoie à des questions de maturité ou quand on renvoie en fait des différences de comportement en classe, voilà, à des différences de caractère, des choses qui seraient en fait naturelles, ou quand on imagine que la curiosité c'est naturel chez tous les enfants, bah, ça dépend la curiosité vers quoi, et ça dépend de ce qu'on a vécu en fait ailleurs que en classe, et en fait c'est des qualités qui sont scolairement reconnues, mais qui sont aussi souvent, enfin qui sont construites différemment dans les différents espaces, enfin dans les différents endroits de l'espace social. Et en fait, ce qu'il faudrait peut-être savoir, c'est que c'est important d'avoir conscience, en fait, simplement que c'est pas des qualités naturelles. Et déjà, ça déculpabilise à la fois les parents dont les enfants ne se conforment pas facilement à ces attentes-là. Ils n'ont pas forcément ça déculpabilise les enfants aussi, qui se disent qu'ils n'ont pas forcément réussi à répondre à ces attentes, de savoir que ça vient de logique qui les dépasse, en fait. C'est les deux, la fonction de déculpabilisation de la sociologie qu'elle essaye de remplir, en même temps qu'elle a également une fonction un peu de désenchantement, parce que ben l'enfant naturellement curieux, etc., ben c'est une figure un idéal, on va dire, mais qui n'est pas
un idéal tellement ancien, enfin voilà. c'est Rousseau, c'est une certaine vision de l'enfance. Alors, Rousseau, c'est pas tellement pour l'école, mais en tout cas pour l'enfance,
oui.
Ça contient évidemment une vision qui a irrigué nos représentations et qui je pense encore aujourd'hui chez beaucoup d'adultes est présente, et qui se heurte à ces représentations scolaires dont nous avons parlé. Pourquoi l'école a tant de difficultés à changer, selon vous, Sandra, qui est professeure des écoles, Sandra Barabino?
Alors moi, je pense qu'elle est en train de changer. Voilà. On s'adapte au rythme de l'enfant. Avant, on n'en parlait peut-être pas autant. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je suis optimiste. Voilà, donc je pense et je crois que ça va changer et que les enfants vont pouvoir évoluer sereinement, en tout cas en maternelle. Voilà, j'espère que les programmes aussi vont évoluer par rapport à l'apprentissage de la lecture, encore une fois.
Pour apprendre les sons plus tôt, par exemple.
Voilà, plus tôt, que ça apparaisse un petit peu plus dans les programmes, parce que je reviens au sujet de l'émission, donc comment pallier les inégalités sociales. Donc moi, je pense vraiment que d'offrir cette entrée dans la lecture aux enfants permettrait déjà de lutter contre l'échec scolaire dès l'arrivée au CP, parce que les grandes maternelles sont terrorisées par le CP. J'avais une classe de grands l'année dernière, et c'était très compliqué pour eux de se dire, ah bah maintenant la maternelle c'est terminé, on va être assis à une table, on va faire que travailler, etc. etc. Donc ils avaient peur, mais ils sont entrés finalement confiants, parce que ils savaient beaucoup de choses, ils savaient lire, ils savaient compter, et ils ont appris aussi, encore une fois, selon leur rythme, parce qu'on ne va pas forcer un enfant à apprendre. C'est ça aussi qui est difficile à l'école, c'est de s'adapter aux différences, de différencier. Ça, je pense que c'est, on a besoin de formation, en tout cas sur le terrain, parce que gros sujet. Voilà, il y a des enseignants qui vont être à l'aise, qui vont aimer les doubles niveaux, qui vont aimer mélanger les âges, etc. Parce qu'il y a plein de bénéfices pour les enfants. Mais c'est vrai que faire de la différenciation quotidiennement, voilà, on n'est pas formé pour ça, alors que ce serait l'idéal, parce que ça respecte vraiment le développement de chaque enfant. Dans une classe, on peut avoir des enfants de décembre qui sont nés au mois de décembre et qui ont un an d'écart, avec les plus grands, et ça crée un souci de rythme aussi. Donc il faut s'adapter à ce moment-là.
D'ailleurs, statistiquement, il y a un avantage à être du début de l'année.
Le début de l'année, oui. Bah.
ça se retrouve dans les résultats. Alors globalement, à échelle d'individu, évidemment, c'est pas une prédiction. On a interrogé une fois encore avec Mouhamadou, dans notre conversation téléphonique qui a eu lieu, je crois, vendredi dernier, la posture professionnelle, la posture de l'enseignant. Écoutez-le, puis on va vous demander de réagir toutes les deux.
On est des fonctionnaires, mais il y a des... Moi, j'ai des collègues qui m'ont déjà dit ça en me disant, mon directeur, ma directrice m'a dit, voilà, vous êtes des fonctionnaires, vous êtes là pour fonctionner. J'ai déjà entendu cette phrase-là. Je la trouve absolument terrible, parce que je la trouve fausse. On est des fonctionnaires, mais on n'est pas là pour fonctionner, on est là pour faire fonctionner. Et c'est absolument différent. Parce que faire fonctionner, c'est mettre l'humain au centre et trouver des moyens de faire en sorte que la machine ne soit pas enrayée, que la machine continue à fonctionner. Sans l'humain, la machine dysfonctionne. Donc on n'est pas là pour fonctionner à proprement parler, on est là pour faire fonctionner la machine. Et non pas pour reproduire ce qui fait que la machine dysfonctionne déjà. Parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'éducation nationale. Si jamais on se met juste à répéter ce qui est attendu de nous, forcément, on se met à reproduire en fait le système. Et c'est ça l'enjeu pour moi, c'est d'expliquer peut-être ou de faire comprendre que ce qui ne va pas lorsque ça se présente devant nous, mais peut-être qu'il faut faire les choses de manière un peu différente pour que ça se passe un peu mieux pour nos élèves en fait et pour les familles, tout simplement parce que sinon on est dans la reproduction sociale que la sociologie explique assez bien.
Sébastien Goudeau, sur cette posture, vous l'interrogez, vous aussi, dans Comprendre et agir. Alors, Comprendre et agir, c'est le sous-titre d'un ouvrage sur les inégalités sociales à l'école. Comment vous réagissez aux propos de cet enseignant ?
Oui, plusieurs réactions. La première, c'est qu'effectivement, il y a ce que fait l'enseignant dans sa classe, et puis il y a les conditions dans lesquelles il les fait. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a effectivement ce que disait Sandra, le fait de s'adapter aux différences, les différences de départ. C'est plus facile de s'adapter aux différences quand on a 20 élèves dans sa classe que quand on en a 28, 29, comme c'est le cas dans beaucoup de classes de maternelle, parfois à plusieurs niveaux. Et puis après, il y a effectivement des gestes, des postures. Alors, il y en a beaucoup, hein, je n'aurai pas le temps de les énumérer.
Donnez-nous un exemple.
Nous, en psychologie sociale, par exemple, on s'intéresse beaucoup à cette question des comparaisons sociales entre les élèves, parce que ces différences de capital culturel qui existent et qui sont données à voir dans la classe, cet élève qui va parler encore une fois de son voyage aux États-Unis, de son séjour au ski ou de l'album qu'il connaît déjà et qui va pouvoir contribuer, ça va générer des comparaisons avec des élèves qui paraissent très à l'aise, avec beaucoup de choses à dire, et puis d'autres qui sont plus en retrait. Et en fait, ces comparaisons, l'enseignant, il peut agir dessus en leur donnant du sens. Et par exemple, en expliquant aux élèves que le fait de ne pas savoir ou de ne pas avoir la réponse, c'est pas un problème en soi. Tout à l'heure, l'invité parlait du rôle de l'erreur. Je pense que c'est pertinent aussi dès la maternelle. Et on peut, avec ses élèves, expliquer que certains élèves arrivent en connaissant déjà en fait, des savoirs et que le fait de ne pas les maîtriser ou de ne pas les connaître, c'est pas un problème. Après, on peut avoir des pratiques aussi qui font moins appel aux connaissances des enfants, c'est-à-dire qu'il y a des contenus de classe ou des pratiques qui vont faire beaucoup appel à ce qui se passe dans la famille, et il y a des contenus qui vont moins faire appel à ce qui se passe dans la famille, mais plus à l'expérience commune de la classe. Et c'est vrai que moins on s'appuie sur ce qui se passe en dehors de la classe, et plus on va gommer les inégalités. Après, il peut y avoir dans la question des tours de parole, des prises de parole, on peut essayer d'avoir des c'est pas, encore une fois, je dis ça en ayant bien conscience que c'est pas facile, surtout quand on a beaucoup d'élèves, mais on a testé une intervention avec mon doctorant Antoine Méry, puis ma collègue Frédéric Autin, où on demande aux enseignants régulièrement d'écrire en fait les élèves qui ont pris la parole, qui se sont exprimés. Alors ça prend du temps, on peut pas faire ça après chaque séance, mais le fait d'avoir comme ça ce pas de côté où on va finalement essayer d'objectiver les élèves qui ont contribué, ça pourrait permettre peut-être de gommer en tout cas d'avoir des interventions plus équitables entre les élèves.
Ne faudrait-il pas s'attaquer aux cours dialoguer. Le cours dialoguer, c'est, vous l'avez peut-être fait vous-même, chers auditeurs, auditrices, expérimentés. Moi, ça m'arrive de le faire quand je fais des ateliers. C'est-à-dire qu'on pose une question à la cantonade et on dit, qui connaît, imaginons un atelier à Radio France, qui connaît Radio France et qu'est-ce que vous connaissez comme radio de Radio France qui contiendrait le nom France le mot France dans leur nom? Évidemment, si on fait ça, on s'expose à voir lever la main des petits auditeurs de France Inter ou France Culture dont les parents sont allés enseignants peut-être, ou cadres, alors évidemment pas forcément, mais plutôt. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cours dialogué qui est utile parfois, mais qui s'appuie aussi sur ses expériences à l'extérieur forcément? Vous pouvez répondre toutes les deux, Sandra Barabino ou Gaëlle Henri-Panabia.
Ça me fait penser, en fait, les cours dialogués à un travail de Stéphane Bonnery qui avait montré que, voilà, en fait, quand on montre pas aussi où sont les enjeux d'apprentissage, quand on habille l'exercice, enfin, qu'on montre pas qu'on est en train d'apprendre quelque chose pour certains élèves, ben, l'implicite que vont saisir les enfants qui sont habitués à être des apprenants à temps plein chez eux, eux vont saisir qu'ils sont en train d'apprendre quelque
Donc,
chose.
Donc, attention voilà. à pas trop ouais. présenter les apprentissages comme un jeu. Ou les histoires comme des histoires qui seraient des histoires que personne ne connaîtrait alors que certains les connaissent ou pas, par exemple Petit Chaperon Rouge ou La Belle au Bois Dormant, enfin, je sais pas si on parle trop de La Belle au Bois Dormant parce que y a un petit problème de consentement mais Le Petit Chaperon Rouge je suis à peu près sûre et donc presque réfléchir à l'avance à ce que les élèves savent ou pas et comment on peut imaginer qu'ils s'en emparent. Et faire, une fois encore, des cours plus explicites.
Oui, et puis j'ai l'impression, dans ce que vous expliquiez, Sandra, voilà, sur le fait de travailler sur la conscience phonologique, ce genre de choses, en fait, à partir du moment où l'école, elle évalue essentiellement ce qu'elle enseigne, on résout, mais ça rejoint ce que disait...
C'est fou, ouais, hein, comme malentendu, ouais, parce que ouais. on est sur des générations d'élèves dont les parents, voire les grands-parents, ont déjà fréquenté la maternelle. Et 99% des élèves y allaient avant qu'elle soit aussi obligatoire. Mais elle a changé.
Elle a quand même beaucoup changé. Enfin, sur l'apprentissage de la lecture, les parents des élèves actuels, ils ont appris à lire dans une école et avec une pédagogie différente de ce qui est à l'heure. Enfin, voilà. Et c'est valable pour d'autres apprentissages. Les manuels que moi j'ai connus ne sont pas les manuels actuels et les décoder demandent un certain niveau de diplôme. Mais quand on a soi-même connu des manuels beaucoup plus explicites qui disent où est l'information et le savoir à chercher, c'est plus difficile.
Voilà. Ce que vous êtes en train de dire, c'est pas une question de méthode globale ou semi-globale, mais plus... Mais surtout, de toute façon, la méthode globale, elle n'est pas vraiment courte. Mais on pourrait dire qu'il y a eu des bouts, et ça fait vraiment sujet à débat, des bouts de méthode globale qui traînaient dans des manuels ou dans les pratiques des enseignants, que c'est plutôt l'explicitation qui compte.
Après, la pédagogie explicite, ça peut vouloir dire beaucoup de choses.
C'est aussi plus ou moins formalisé. Sandra Barabino, c'est sortir du cours dialogué, de la demande.
Alors, c'est peut-être de partir de ce que les enfants connaissent et puis après créer un projet autour de ce qu'ils connaissent pour inclure tous les enfants, faire des recherches ensemble et puis partir des connaissances des uns pour déjà pour les développer et puis aider les autres à...
Est-ce que ça exige un travail sur soi-même de peut-être changer un petit peu ces représentations de ce qui peut être valorisé à l'école?
Je pense, oui.
Vous le faites?
J'essaye.
Donc c'est, par exemple, se dire que c'est pas tous les parents qui disent des histoires et que c'est pas... Enfin, je sais pas, quel exemple vous pourriez me donner?
Alors, pour les parents qui ne lisent pas d'histoire à leur enfant, on peut proposer de prêter des livres, par exemple. On a une bibliothèque en classe. Pour ces enfants-là qui n'ont pas accès à l'histoire, entre guillemets, à l'histoire du soir, on peut inviter les parents déjà à discuter, à dire pourquoi c'est important de lire avec son enfant, et puis proposer de prêter des livres.
Est-ce qu'il faut valoriser le temps scolaire rapidement? Parce que on entend à la maternelle souvent, c'est trop de temps à l'école, il faut les prendre plus tôt. C'est pas possible pour tous les parents, on n'a pas tous des
horaires de les prendre plus tôt.
Après l'école.
Après l'école,
On n'a pas tous du temps.
Parler du périscolaire
quand l'école se termine. Oui.
Alors oui, en maternelle, ça fait de très très longues journées, mais des parents n'ont pas le choix. Donc la municipalité, parce qu'à ce moment-là, ce ne sont plus les profs qui sont en classe, qui prennent le relais. Et puis bon, ce sont des activités faites pour les enfants, mais c'est bien aussi, puisque si à la maison, on ne parle pas français ou qu'il n'y a pas de jeu ou pas de livre, ce sera un moment qui permettra de pratiquer et puis de manipuler des jeux, des livres. Donc ça peut être intéressant, c'est fatigant, mais intéressant.
Comme voilà. Pas mal de choses dans la vie. Merci. Sandra Barabino, on conseille la lecture de Première classe publiée à Université Paris Cité. C'est un livre qui ne s'adresse pas qu'aux universitaires. En fait, il s'adresse à tout le monde. On conseille la lecture de Les inégalités scolaires, comprendre et agir, publié chez De Book, parce qu'on dit De Book supérieur. Le livre également sur l'histoire de la maternelle, Petite histoire de la maternelle, publié à La Dispute. Merci, Avril Ventura, adjointe à la production de l'émission qui était réalisée par Camille Mathy et mise en onde par Jean-Guilain Meige. Merci à tous. ce 24 septembre prochain, donc mercredi. Ce sera la 18e édition de la journée du refus de l'échec scolaire, dont le thème est hyper intéressant. Ce sera pour parler des jeunesses populaires, rurales et urbaines. Est-ce que justement le combat face aux inégalités éducatives se rejoint? Et ce sera sous le parrainage de l'excellent sociologue Benoît Coquart, auteur de Ceux qui restent, un livre vraiment assez génial sur la jeunesse rurale au masculin. Ce sera au Monde, c'est organisé par l'AFEV et je crois qu'on peut s'y joindre à distance et puis à lire dans la revue Administration et Éducation, un titre qui ne cesse de me fasciner, ça donne pas vraiment envie mais c'est très intéressant. 12 lectures pour repenser l'école de Rabelais à Pénac, en passant par Mona Ozouf et Ivan Illich. Ça manque de femmes, mais c'est une petite anthologie qui permet de repasser sur pas mal de grandes idées qui construisent et déconstruisent les représentations de l'école. Ça fait du bien.